Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Protéger ses collaborateurs en déplacement à l'étranger, c'est la responsabilité des entreprises. Heureusement, elles peuvent être aidées par des sociétés spécialisées. Pour en parler, je reçois Thibaut Janin, directeur général d'Ilios International, spécialiste de la sûreté de voyage et l'assistance sécuritaire à l'étranger. Bonjour Thibaut Janin.
Bonjour.
Allez, dans vos mots, en quelques phrases, présentez-nous les missions de votre société.
Vous l'avez bien résumé. Donc, Ilios International gère les risques de santé et de sécurité pour les collaborateurs de nos clients qui se déplacent en mobilité internationale ou qui sont expatriés à l'étranger.
Oui.
Donc, on gère une multitude de risques divers et variés, de la catastrophe naturelle à la protection physique des collaborateurs. Et on a toute une palette de prestations qui gère donc de bout en bout, depuis l'information avant départ, la supervision des déplacements, l'assistance en 24/7, jusqu'à la gestion de crise.
Vous existez depuis une douzaine d'années, c'est ça ?
2011.
Ouais. Vous travaillez donc à la fois directement avec le management, je suppose,
oui,
pour préparer les voyages, mais également, évidemment, avec les collaborateurs qui s'en vont, eux.
On travaille sur une multitude de niveaux. Vous avez les chefs de projet, les managers, donc ce sont des niveaux intermédiaires, évidemment, le top management, les directeurs de zone, les directeurs généraux, quelquefois les membres du COMEX quand on traite de situations de crise, et puis évidemment tout ce qui est expatrié et voyageurs sur le terrain.
Allez, les principaux risques pour les voyageurs, c'est quoi ?
Ouh, il y en a une multitude et ça dépend vraiment de la zone dans laquelle vous vous trouvez, évidemment. Vous avez des risques de catastrophes naturelles, vous avez des risques géopolitiques majeurs.
Ouais, de conflits. Donc.
Voilà, on les connaît tous, hein, ils sont très médiatisés. Mais aussi, vous avez des risques liés à la criminalité qui a vraiment explosé partout dans le monde.
Ouais.
Donc dans les pays sensibles qu'on connaît tous, hein, Amérique du Sud, Afrique, certaines zones d'Asie du Sud-Est, mais aussi tout ce qui est Amérique du Nord. Certains pays d'Asie aussi qui étaient plutôt calmes et qui d'un coup il y a une espèce de fracture sociale, on va dire, qui entraîne des tensions criminelles, et on est là aussi pour les gérer parce que les voyageurs, eux, ils sont sur le terrain et c'est un petit incident pour une entreprise mais c'est une crise pour un voyageur.
Vous dites qu'il n'y a pas, votre activité c'est pas seulement les pays à risque,
oui,
c'est aussi les pays où a priori il n'y a pas forcément de risque.
Ouais. Bah, on gère une multitude de situations. Il peut y avoir des problèmes de criminalité quand on se déplace aux États-Unis, par exemple. Vous allez à Miami, à Los Angeles, à Détroit, à Chicago, vous avez des quartiers communautarisés où on peut s'y retrouver par mégarde. Et à partir de là, on peut se retrouver dans des situations complexes.
Mm-hmm.
Donc là, on est là aussi pour aider les collaborateurs.
Ça va au sein de l'Union européenne, non ?
Ben, la situation de la France n'est pas brillante. Même si je suis très chauvin, ça fait du mal de le dire. Et puis, ben, l'Allemagne, c'est pareil. La Suède, c'est pareil.
Ah bon, il y a aussi des risques dans des pays nordiques comme la Suède ?
Ah ben, en Suède, oui. En Suède, oui, il y a des quartiers qui deviennent très, très, très difficiles, qui peuvent ressembler à nos quartiers qu'on peut retrouver en France.
Ouais.
Vous avez certaines zones en Suisse aussi qui commencent un peu à remuer. Et puis la Grande-Bretagne aussi. Il faut savoir que donc, quand on fait des classements des villes les plus dangereuses d'Europe, vous avez beaucoup de villes de Grande-Bretagne.
Ah oui.
Donc oui, l'Europe n'est pas épargnée.
J'ai vu dans les documents que j'ai pu consulter que vos conseils allaient jusqu'à dire quelles rues il ne fallait pas fréquenter.
Alors voilà, c'est une des deux spécificités qu'on a par rapport à la compétition sur le marché. C'est que moi, étant un ancien voyageur, les alertes et les fiches pays, c'est bien, mais quand j'arrivais à l'étranger, il fallait que je connaisse mon environnement, même sur des destinations que je ne connaissais pas. Donc, sur 1000 destinations et 160 pays, on a cartographié des villes entières, donc rue par rue, quartier par quartier, les zones qu'il faut éviter pour des raisons de sécurité. Donc, vous avez accès à ces cartes quand vous voulez. Et vous avez en plus une technologie geofencing. Geofencing.
Oui, c'est-à-dire.
Alors, c'est une sorte de barrière virtuelle. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, quand vous rentrez dans ces zones-là,
ça fait bip bip.
Voilà, il va
chez
vous dire.
Vous
Alors, ça va biper chez nous, sur nos centres opérations, ça va biper chez le voyageur surtout.
D'accord.
Parce que lui, il a besoin de savoir, attention, je suis dans un quartier un peu compliqué. Donc l'idée, ce n'est pas de lui dire, vous êtes entré dans ce quartier, ça va tirer dans les rues. L'idée, c'est de lui dire, point de vigilance, attention à vos affaires, attention à ce qui se passe autour. Et voilà, c'est juste un rappel à la vigilance.
Donc géolocaliser les salariés.
Ça utilise la géolocalisation,
oui.
Par contre, on ne géolocalise pas en permanence. C'est-à-dire que la géolocalisation se met, je parle un peu vite, mais La géolocalisation se met en route à partir du moment où vous entrez dans ce quartier.
D'accord.
Okay. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on a un très gros centre opération à Aix-en-Provence. Et ce centre opération, quand il a cette information-là, il est mis en alerte. C'est-à-dire, attention, il peut se passer quelque chose pour ce salarié. Mmh. On peut le contacter parce qu'on a des notions de risque sur toutes les zones qu'on a cartographiées. Mais ça nous préalerte sur l'éventualité de déployer une équipe dans certains pays parce qu'on a beaucoup de partenaires à qui on est connectés et avec lesquels on est capable de gérer des interventions rapides s'il y a besoin.
Vous écrivez que vous êtes capable de déployer une équipe entre un quart d'heure et une heure.
Voilà, oui, ça dépend des spécificités des villes.
Ouais.
On ne peut pas le garantir. Ouais. Vous allez à Lagos ou à Luanda, le trafic, c'est compliqué quand même. Donc, on n'a pas des hélicoptères pour y aller. Hein. Mais c'est un gros travail. Ça nous a pris plus de 4 ans pour arriver à ce niveau-là, d'avoir un gros réseau. On a 200 correspondants répartis dans 88 pays. On a des milliers de partenaires qu'on a connectés avec nos back-office, avec notre centre opération. On reçoit les appels sur notre centre opération et on est capable, en moins de 2 minutes, parce qu'on a les collaborateurs qu'il faut aux bons endroits pour évaluer une situation, définir si on peut solutionner le problème par téléphone ou si on déploie une équipe sur place. Et en fait, on a tout un système informatique qui permet d'envoyer des notes d'intervention avec la localisation du voyageur pour aller récupérer la personne. Tout le travail après derrière, c'est de gérer ce temps entre le moment où on a l'appel et le temps où l'équipe arrive. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, on a quadrillé les villes avec des zones refuges dans lesquelles on peut dire au voyageur, là, pour le coup, dès qu'il appuie sur son bouton d'urgence, ça passe sur un partage de position en temps réel, et on lui dit tournez à droite, tournez à gauche, arrêtez-vous là, ne bougez plus, et on arrive.
Donc, vous intervenez, par exemple, sur un collaborateur, une collaboratrice qui s'est casser la figure dans l'escalier de son hôtel.
Un tas de situations.
Vous intervenez parce que une jeune femme se sent suivie soir, etc.
Oui.
Donc là, vous êtes capable de lui indiquer où se réfugier et envoyer une...
C'est exactement ça.
La concurrence le fait ou c'est vraiment particulier à
vous ? Non, la concurrence ne le fait pas. La raison principale, c'est que nos concurrentes ne sont pas trop jeunes et donc ils vendent...
C'est-à-dire pas trop jeunes ?
Ça a une trentaine d'années, ce métier-là, sur la partie sécurité. La partie assistance médicale, ça a 60-70 ans. Donc, ce sont les mêmes métiers qui n'ont pas évolué. Nous, on est plutôt jeunes. Moi, je suis un ancien voyageur d'affaires. Donc, du coup, je connais les risques. Je connais les situations, parce que je l'ai vécu moi-même, qui peut arriver un voyageur, un expatrié. Et donc, on s'est juste mis à réfléchir quelle est la meilleure solution pour accompagner les voyageurs dans des situations difficiles. Mmh. Et ça aboutit à ça. Mmh. Et après, c'est tout un travail. Il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il faut du temps pour le mettre en place. Il faut des ressources humaines. Mmh. Il faut des ressources financières, parce que c'est de l'infrastructure. Hein. C'est beaucoup d'infrastructure.
Mais vous êtes doublon par rapport aux assurances type mondial, assistance, etc. Ou
non.
Vous êtes complémentaire?
On est très complémentaire. Très complémentaire, parce que, pour vous donner un schéma simple, vous avez 3 temps. Vous avez le temps d'impact, c'est-à-dire là où vous avez eu un problème, le point de stabilisation, qui est l'hôpital, le médecin, le commissariat, et ensuite, vous avez le troisième point, qui est le rapatriement chez vous.
Oui.
Les sociétés d'assistance médicale, globalement, et même quasiment tout le temps, elles vont vous prendre en charge à partir du point de stabilisation, c'est-à-dire l'hôpital. Mmh. Elles ne gèrent pas ce qui se passe avant. Elles peuvent vous donner des conseils, mais elles sont à 5000 km de là, elles n'ont pas la connaissance du terrain, ce n'est pas possible. Nous, on gère cette partie-là. Donc, on est très complémentaires vis-à-vis d'eux, et c'est pour ça que on est complémentaire aussi avec les compagnies d'assurance, parce qu'une fois qu'on a amené la personne vers un centre de soins, par exemple, on n'est pas là pour prendre en charge les frais d'hospitalisation. C'est à l'assurance de le faire. Donc c'est tout un métier qui s'imbrique et qui permet de donner vraiment une réponse adéquate à un voyageur à l'étranger.
Est-ce qu'il vous arrive de dire interdiction de tel pays ?
Alors, nous, on est conseiller.
Mais en votre fort intérieur, en tant qu'expert.
Ah, mais bien sûr, on va conseiller un client. On va conseiller un client. Si un client, par exemple, nous dit « je veux aller à Haïti », on va quand même le déconseiller fortement. Mmh. Après, on n'est pas, on
oui,
va
oui,
pas
oui,
validé.
C'est, pas responsable
c'est le client qui va valider oui ou non.
Mais si, vous allez quand même l'accompagner ?
Ah, si on aussi.
S'il va à Haïti, vous l'accompagnez ?
On l'a fait il y a quelques mois en arrière. On a accompagné un client sur Haïti. Mais ça a été avec nos conditions de mise en protection.
Mmh.
Voilà.
Donc, travailler avec le Quai d'Orsay ?
Ça peut nous arriver de travailler avec le Quai d'Orsay, mais ce n'est pas automatique.
Tout ça, ça coûte combien pour l'entreprise ?
Ça dépend vraiment des cas de figure. Mais si je vous donne là ce système d'intervention, par exemple, ça se rapproche du modèle assurantiel. C'est-à-dire
qu'on
fait payer quelques dizaines d'euros par semaine de voyage. Mais c'est-à-dire que...
Si je pars 3 jours, 4 jours...
Ah, c'est à la semaine.
C'est toujours à la semaine.
C'est toujours à la semaine.
Okay. Voilà.
Et, vous payez
et vous me parlez de quelques dizaines d'euros seulement ?
Et oui, parce que j'ai un modèle qui ressemble à un modèle assurantiel. C'est-à-dire que tout le monde paye la même chose.
Tous vos clients payent la même chose.
Et tous les voyageurs payent la même chose. Mmh. Et s'il se passe quelque chose, en fait, c'est
mutualisé.
C'est cette mutualisation, en fait, qui permet aux clients de se dire « j'ai rien à débourser, c'est moi qui vais payer. Moi, Ilios International.
Mmh. »
Voilà. Donc,
mais alors, vous, faites comment pour payer tout ça, alors ?
Ah bah, on a tout notre réseau, tous nos partenaires avec lesquels on passe des contrats, avec lesquels ils ont... alors nous, on appelle ça un terrain de jeu, mais c'est un périmètre qu'on définit avec eux, avec des différentes situations, des moyens humains et matériels à déployer pour telle et telle situation. Tout est codifié, tout est doctriné. Et le prix est avec. C'est-à-dire, on va dire, pour ça, vous avez un prix. Ça,
c'est pas négocié. C'est quoi, 2023 ?
On va atteindre plusieurs millions d'euros sur cette année.
Ouais. Pour combien de salariés ?
Alors, on a une trentaine de salariés au siège, à Aix, et on a 200 correspondants répartis dans un peu plus de 80 pays dans le monde.
D'accord. Et pour autant, il y a un marché qui repart. Hein, les voyages d'affaires sont repartis par rapport au Covid.
Oui.
Donc, le chiffre d'affaires peut aussi gonfler.
Bah, écoutez, oui, parce que on était à une bonne dizaine de milliers de dossiers sur cette partie assistance primaire l'année dernière. Si la trajectoire qu'on voit est bonne, on va faire entre x3 et x4 sur cette année 2024.
Merci beaucoup Thibaut Janin pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.